Des partenaires forment le comité de gestion. Il s'agit entre autres du centre Monseigneur Marcoux, des conseils de quartier et du Patro Roc Amadour. Votepour.ca ainsi qu'une organisatrice communautaire du CIUS de la capitale nationale en font aussi partie. Espace d'initiative y participe et agit comme fiduciaire pour la concertation. Pour guider partenaires et actions de Rendez-vous Limoilou, une consultation citoyenne est en cours jusqu'à la fin février. Pour répondre au sondage, citoyennes et citoyens sont invités à consulter monlimoilou.com. Le chantier de l'économie sociale est une organisation autonome qui a pour principal mandat la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Le chantier presse le gouvernement de dévoiler le plus tôt possible sa stratégie en matière de marché public, la stratégie de développement économique local et régional du Québec, le plan d'action en entrepreneuriat et la première politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. La prochaine session parlementaire sera aussi le moment pour le gouvernement de déposer son dernier budget avant les élections. Le chantier souhaite y voir des mesures structurantes pour changer de logique économique. La création de valeur doit être mise au-dessus des profits, espère l'organisme. Le projet Échelon souhaite permettre cette année à 4 artistes de 18 à 35 ans, issus des communautés racisées et autochtones, de parfaire leurs connaissances musicales et d'explorer en profondeur les rouages du métier. Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, l'équipe lance aujourd'hui son appel de candidature afin de trouver les prochains artistes qui feront partie de cette grande aventure. Durant les 9 mois, ces artistes seront accompagnés par des professionnels de la musique. Les ateliers auront lieu à l'Ampli, rue Saint-Joseph. En fin de projet, ils et elles seront amenés à réaliser un EP, ainsi qu'à se produire sur scène afin de démontrer leurs acquis. Les artistes ont jusqu'au 20 février pour déposer leur candidature. Tous les détails sur le site amplidequebec.com. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
Les vieilles amitiés ramollissent, on devient plate comme des polices. On est loin de notre époque rock quand on organise des potlucks le vendredi jusqu'à minuit. J'essaie de rester de bonne humeur comme si ça me rendait pas anxieux, de devenir un stéréotype sur une terrasse dans une banlieue. Le plus souvent, j'ai rien à dire, il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Anyway, vous êtes bien partis, continuez à compter vos vies. Pendant longtemps, 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 longtemps. Pendant longtemps, 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 longtemps. Pour pas trop culpabiliser, on politise les discussions, même si ça fait longtemps qu'on est congédié de la révolution. Après une bouteille de pinot, puis un éventail d'opinions, on règle deux, trois enjeux mondiaux, puis c'est l'appel de la maison. C'est là que moi je m'en vais m'asseoir pour écrire des couplets à mère sur mes amis, parce que jaloux de leur vie qui rendent les mamans fières. Je chante dans le dos comme un chien sale, je vous jure, c'est pas pour être méchant. En vrai, c'est que je me sens perdant, si vous saviez, je vous aime tellement. Depuis longtemps, 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 longtemps. Depuis longtemps, 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 longtemps. Depuis longtemps. Sûr qu'on réussit.
facile de voir marcher dans le noir. C'est facile de croire les promesses de mort. C'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause, ce qui me cause. C'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin. C'est le vin qui part au rythme un peu sourd de l'organe accessoire. Ici la ville est morte, ici la ville est morte. Si j'y la ville, c'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me ce matin, ce qui me cause, ce qui me cause, c'est que t'as perdu ta tête ce matin, ce qui me cause bien du chagrin, c'est que t'as perdu ta tête ce matin, ce qui me cause, ce qui me cause, c'est que t'as perdu ta tête ce matin. Ce qui me cause bien du chagrin.
Mmh. dans le garage. Elle est éclairée, chauffée, ventilée.
Elle va être plus stable que dans le garage autour. Donc, moi, je devrais prendre dans cette correcte. Mais il reste que 60 %, c'est pas très, très fort comme humidité. Si c'est 70, ça serait encore mieux. Mais c'est limite. C'est oui ou non. C'est, à essayer. C'est pas obligatoire, de toute façon. Ça va juste aider à faire de la germination. Après la germination, vous savez, c'est moins d'importance. Mais 60 % pour la croissance des semis, c'est très bon.
Marielle, pardon. Marielle Renarde, je débute mes semis d'hibiscus vivace. Je pars les semis sur un tapis chauffant et sur un étagère avec fluorescent pour leur procurer de 12 à 14 heures de bonne lumière par jour. Est-ce que le tapis chauffant sera suffisant ou si je dois augmenter aussi le chauffage de la pièce que je souhaitais garder à 15 degrés jusqu'au début mars, qui sera le début de nombreuses autres semis d'hiver?
Bon, là, on va présumer, bien sûr, que vous avez mis vos semis d'hibiscus vivace sous une dôme de plastique ou un sac de plastique transparent. Dans ce cas-là, le tapis chauffant va suffire. C'est que si vous placez ça, un tapis chauffant, qui chauffe quand même 24 heures par jour, ça va toujours rester chaud à l'intérieur. Peut-être si c'était l'air libre, il aurait pu y avoir des fluctuations. Et c'est surtout pour partir. C'est une chose à saisir pour les gens qui font des semences. La chaleur pour la semence, c'est surtout pour partir, pour la germination. Une fois que c'est germé, la plupart des plantes préfèrent une température plus fraîche. Donc, une fois que vos plantes de semis de hibiscus soient levées, et ce n'est pas très vite, hein, mais une fois que ça lève, et il y a peut-être une ou deux ou trois vraies feuilles, vous n'aurez plus besoin de tapis. Même s'il fait frais, la plante va très, très bien sous la fraîcheur, tant qu'il y a beaucoup d'éclairage, bien sûr. Mais c'est la température chaude et stable, c'est juste pour faire germer, pour pas partir. Et je souligne ça parce que les gens ne saisissent pas toujours. Parce que dans la nature, très souvent, les plantes, les graines tombent au sol. Et si les conditions ne sont pas correctes, ne germent pas. Ben, on ne veut pas que ça arrive à la maison, on veut que ça germe. Donc, assurer une bonne température pour au moins les faire germer est toujours important. Après, c'est beaucoup. Une fois que c'est parti, la plante est partie. Elle va s'adapter. Il faut avoir de la chaleur pour partir. La plupart. Des exceptions à tout, hein. Mais la plupart des plantes, c'est une bonne chaleur stable pour les partir. 21 degrés, 24 degrés, il faut un peu plus.
Mu Saint-Onge écrit « Bonjour, pouvez-vous nous parler de la culture des échalotes françaises? Est-ce un bulbe, qu'on doit semer? À quelle période de l'année? On m'a suggéré à l'automne comme l'ail. Je doute. Merci. »
Oh, mon Dieu. Moi, je veux dire que je ne peux pas répondre à ça. Je suis, c'est quoi le mot? Devenu tellement confus avec les oignons. Je sais, vous dites, voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Mais les échalotes françaises, ça sont des vrais. D'autres qu'on vend comme échalotes françaises, ce sont des oignons verts. Et ça devient tellement compliqué, je ne sais plus quel pied danser. Donc, il faudrait que je regarde. J'essaie de penser de faire ça pour la semaine prochaine. Je vais prendre une note. Mais je ne peux pas vous parler tout de suite parce que je ne me rappelle pas. J'en ai déjà cultivé. Mon épouse les a aimés. Je n'ai pas parti de cette semence. J'ai acheté des semences sous forme de bulbes. Il me semble que j'ai planté ça comme un oignon. Il faudrait que je vérifie. Parce qu'une fois, je deviens mélangé avec échalotes de Sainte-Anne, échalotes françaises. Oh, trop, très compliqué. Les botanistes n'arrivent pas à les démêler. Ils sont perdus, complètement perdus avec les oignons. Vraiment compliqué. Voilà.
Qu'est-ce qui explique que c'est aussi compliqué, Larry?
C'est que ce sont des croisements des hybrides d'autrefois. Sans doute que l'échalote française n'a jamais existé à l'état sauvage. Puis un croisement avec telle variété d'oignons sauvages et un autre, et on n'arrive pas à mettre les noms dessus parce que c'est trop mélangé. Donc, c'est le genre de situation où c'est pas évident. Comme l'échalote française, je n'ai jamais vu en France ou en Europe ou nulle part. C'est seulement... Échalote de la Sainte-Anne, je veux dire. Et personne ne sait d'où ça vient, ni c'est quoi le fonctionnement. C'est un genre d'oignon quelconque, mais on ne sait pas trop. C'est très compliqué, les oignons, hein? Très compliqué. au niveau de l'identification.
On va y aller maintenant avec la question de Marielle Larenarde. À l'automne, j'ai entré plusieurs plantes dans la maison. Il y a parfois des petites mouches de terreau qui apparaissent. J'ai installé des collants jaunes. Est-ce que ces petites mouches peuvent causer du tort à mes semis s'ils sont dans la même pièce, pardon?
Ça dépend s'il y en a beaucoup ou pas. Vous savez que les mouches de terreau, là, les céarides, c'est pas très dommageable en général. Personnellement, j'en ai chez moi, je m'en occupe pas. J'ai des plantes insectivores, donc je les laisse survivre pour les nourrir. Mais et j'ai une piège lumineuse aussi pour attraper tout insecte. Mais quelques mouches de terreau, là, et rien là, pas très compliqué. La seule fois que ça pourrait causer le problème, même chez les semis, c'est ce qu'il y en avait beaucoup. Parce que s'il y en a beaucoup, c'est l'adulte ne fait rien, bien sûr. C'est les larves. Les larves qui sont dans le terreau, leur rôle naturellement, c'est de décomposer le terreau. Et en décomposant le terreau, et là, c'est, quand on parle de décomposer le terreau, il ne faut pas vous imaginer que le terreau va partir. T'sais, ils font une étape dans la décomposition qui prend 20 ans. C'est juste une étape. Mais vous ne verrez pas votre terreau diminuer. Mais il reste quand même, dans le fond, c'est bénéfique quasiment. C'est que s'il y en a beaucoup, ils ne trouvent plus assez de terreau à manger, là, ils peuvent manger les racines de vos semis. OK, ça ne paraît pas bien. Enfin, on a découvert que certaines semis poussent mieux lorsqu'il y a des mouches de terreau. Mais comment ça? C'est que cette petite taille dans la racine, juste une touche de taille dans la racine, stimule la production de nouvelles racines. Et ça fait des plantes plus solides. Donc, c'est que s'il y a beaucoup assez pour causer du tort à la plante au semis, ça serait un problème. Moi, je ne m'inquiéterais pas pour l'instant. Je vais vous envoyer beaucoup pour de prêtre, surtout là, si vos terreaux, votre terreau sèche un peu plus entre les arrosages.
Aiden Knight écrit « Bonjour, M. Hudson. J'espère que vous allez bien. Quand et comment fertiliser un potager? » Avec quoi? Je mets beaucoup de fumier qui provient de la ferme familiale et de paillis de feuilles décomposées au départ, mais ensuite, je ne fais rien d'autre.
C'est toujours un peu embêtant, ce genre de questions-là, parce que c'est pas évident de savoir exactement quel résultat le traitement qu'on va faire va donner. Mais beaucoup de gens vont faire quelque chose comme vous faites là. Fumier ou compost en début de saison, paillis de feuilles, bien sûr, ça aide aussi. Il reste quand même, c'est pas mauvais, avec les légumes, surtout les légumes. Je parle pas nécessairement de d'autres plantes. Les légumes, on veut que ce soit beau et gros et parfait. Donc, acheter un engrais à dégagement lent, ça va être utile aussi, en plus de ça. Donc, un engrais biologique à dégagement lent, c'est facile de trouver. N'importe quel centre jardin pourrait vous en trouver. Mais ça serait peut-être une chose à faire en plus. Et là, avec quoi exactement? Écoutez, ça dépend de quelle marque d'engrais que vous trouvez. Moi, je ne suis pas à cheval sur les marques d'engrais. La plupart, c'est qui va être passable.
Frédéric Martel, bonjour. Bonjour. Au pied de certaines de mes gros érables rouges, il pousse une multitude de nouvelles petites branches chaque année. Est-ce que c'est un signe de vieillesse, maladie ou c'est normal? Et je les recoupe chaque année. Merci.
OK. Ça, ça peut être absolument rien, mais ça peut indiquer un problème. Ça se peut que votre arbre vieillit ou a un problème quelconque. Elle essaie de se corriger en repoussant du pied. Mais ça se peut que ce soit tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est un peu, comment dirais-je, un trait héritable. Certaines variété, le semé par les mêmes parents, mais certaines vont hériter de cette tendance à rajeunir et d'autres ne l'auront pas. Donc, surveillez votre arbre. Si tout va bien, moi, je ne m'inquiéterai pas. Je les enlèverai quand même parce que vous ne voulez pas avoir nécessairement une masse de jeunes branches au pied de la plante. Et si jamais c'est parce que l'arbre est âgé, est en train de mourir, c'est mieux de laisser mourir l'arbre. Et repartir avec les arbres jeunes et plus forts, pour un érable au moins. parce que ce n'est pas un arbre qui repousse généreusement quand la maman a été tuée. Voilà.
Dorothée, beau séjour maintenant. J'ai cultivé une bouture de Brugmansia comme une annuelle depuis l'automne. Maintenant, le plant est gros, mais le pot est petit. Les nouvelles feuilles sont pliées et les vieilles feuilles vert plus pâle. Dois-je couper les tiges en bouture ou transplanter le plant? Merci beaucoup.
OK. Ben moi, je transplante le plant. D'abord, vous pouvez toujours couper la tête, faire les boutures si vous voulez. Mais je transplanterai le plant d'abord dans un pot plus gros. Surtout que les boutures de Brugmansia sont lentes à fleurir. Très souvent, les gens vont découvrir qu'on fait une bouture une année, la deuxième année, il n'y a pas de fleurs. Et ça pousse très bien. Et c'est la troisième année que ça commence à fleurir. Fait que si vous faites des boutures de vos boutures, ça va juste retarder le futur floraison. Vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, je dirais le mettre dans un pot plus gros. Dès que vous avez plus d'éclairage, vous avez plus de lumière, bien sûr. Parce que l'éclairage actuellement pour un Brugmansia, c'est pas fort. Et gardez l'humidité forte pour que les feuilles se déplient. Parce que les feuilles sont pliées, c'est probablement parce que l'air est trop sec pour la plante. D'ailleurs, chez moi, l'humidité est seulement 32 %. Quand il fait très froid, hein, l'humidité relative à l'intérieur baisse énormément. Et quand c'est à 32 %, c'est terrible. Moi, je vis 50 minimum l'hiver. Et cet hiver, avec le mois de janvier froid qu'on a eu, je n'ai pas réussi. C'est sûr que moi, je suis dans mon bureau. Quand je suis plus près des plantes, en général, c'est beaucoup plus fort que ça. Mais 35, moi, je trouve ça décourageant. Mais en tout cas, c'est un hiver difficile. Maintenant que la température baisse, l'humidité monte, je veux dire, l'humidité devrait monter aussi. Mais ça va rebaisser parce qu'il annonce plus froid encore. Donc, augmenter l'humidité si vous êtes capable, ça va aider.
Prochaine question, Carole Gervais. J'imagine que c'est Gervais. Bonjour, j'ai des boutures de plantes ZZ parties dans l'eau. J'ai eu une petite bulbe. J'ai fait transfert dans un terrain rouge. J'ai des feuilles jaunes. Est-ce que je dois modifier quelque chose? Merci.
Non, pas vraiment. Donc, Zamioculcus zamifolia. Moi, j'aime bien l'appeler faux zamier. C'est le sens de son nom. Cette plante-là se bouture par foliole. On peut prendre la plante fait des longues feuilles avec des folioles de chaque bord, comme une fougère, si on veut. Puis si on prend un foliole et on le fait raciner, là, vous faites dans l'eau, un peu le faire dans le terreau, ça fait un petit bulbe, et éventuellement, commence à pousser. Le problème, c'est quand? Très souvent, après le problème de bulbe, la feuille est sèche, est jaunie, et il ne se passe rien. Donc, on dit, oh, ça, je les ai perdus. Mais non! C'est naturel pour cette plante-là. Très souvent, une fois que le nouveau bulbe est formé, ça prend 3, 4, 5 mois de congé et ça se met à pousser après. Donc, il va falloir garder le terreau à peine humide et attendre. Éventuellement, il devra avoir une nouvelle pousse d'herbe. Mais c'est pas vite, hein? Vous avez plusieurs années à attendre avant de voir une grosse plante.
Anne-Marie Gélina, maintenant. J'ai remarqué que des semenciers nous disent que certaines variétés de semences sont remplacées par d'autres. Exemple, le haricot nain Banga deviennent Hawaï. Est-ce que ce sont les mêmes qui sont modifiés? Pourquoi disent-ils remplacés?
C'est une décision qui est prise par le semencier. Ils vendent des fois des variétés pendant quelques années, les gens les aiment, mais eux, à force de d'écouter des commentaires, etc., ils découvrent des défauts. Ou parce qu'ils savaient déjà que cette vérité-là était bonne pour telle chose, mais un peu susceptible de telle maladie, etc. Quand ils trouvent une meilleure variété, souvent ce qu'ils vont faire, c'est de retirer, mais qui est similaire, ils vont retirer l'ancienne et remplacer par la nouvelle variété. Et là, je dis nouvelle variété, nouvelle pour eux, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle variété. C'est peut-être une vérité patrimoniale. Ça, c'est pas l'importance. Mais ils vont trouver des plantes supérieures. Donc, habituellement, quand un marchand le fait, on peut leur faire confiance. ils sont expérimentés, ils savent qu'est-ce qu'ils font, et tout probablement que cette nouvelle vérité va donner des résultats assez similaires, je pense, même forme de gousse, même couleur, goût similaire, mais vous aurez une meilleure productivité ou une meilleure résistance aux maladies. D'ailleurs, l'une des tendances les plus récentes, c'est la recherche des vérités résistantes aux maladies. Parce qu'on ne prêtait pas attention à ça il y a pas longtemps. En disant, oh, s'il arrive des maladies, je vais sortir tous les insecticides et tous les pesticides du monde et je vais contrôler. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus utiliser les pesticides. Et donc, on cherche des vérités qui résistent aux maladies. Et on y trouve. Ça a toujours existé. Donc, souvent, c'est des vérités patrimoniales. Des fois, c'est des vérités nouvelles. Et peu importe. On va souvent remplacer des vérités bien connues, mais susceptibles aux insectes ou aux maladies, pour les remplacer par des vérités qui ne sont pas susceptibles aux maladies ou aux insectes. Ce qui nous sauve beaucoup de travail. Comme je vois venir.
Louise Messier-Luciani écrit, en fait, elle dit qu'elle a récolté des graines de Crosscomia. Maintenant, si je fais un semis, dans combien de temps ces plantes fleuriront-ils? Merci.
OK. Normalement, quand on sème une bulbe comme ça, parce que Crosscomia est une bulbe, une corne, mais c'est pas grave, même catégorie. Normalement, c'est au moins 2 ans. Moi, je dirais, probablement, vous aurez besoin de faire une première année de croissance avec seulement des feuilles. Et la deuxième année, peut-être, vous aurez des fleurs. Mais la troisième année, c'est presque certain. Parce que rendu là, la plante aurait pris sa pleine taille. En 3 ans, ça arrive. Et là, vous aurez des belles fleurs. Donc, c'est ça. C'est pas vite, mais vous savez, pour une plante vivace, en vaut dur hein, que le Crocosmia chez nous, c'est une plante vivace. Attendre 3 ans pour avoir la vraie floraison, c'est dans le normal des choses. Hein. C'est pas aussi vite que les annuels.
Parfait. Donc, on va y aller avec la question suivante de Don Tran Phan. Désolé si j'ai bousillé le nom. Donc, elle dit qu'elle est très heureuse de nous entendre en direct encore une fois. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que fait la stratification froide et chaude? Vous en avez fait référence dans un récent article sur le bonsaï.
Oui, stratification ou traitement au foie est une façon de faire stimuler la germination. Maintenant, le terme stratification est encore le terme officiel, mais c'est basé sur un concept qui n'a plus de sens. Il y a, disons, 150 ans, on avait découvert que certaines graines germinaient mieux lorsqu'on les mettait en terre à l'automne, qu'on les faisait subir du froid et ça n'a jamais mis au printemps. Mais ils ont mis ça sur le dos, non pas de la température, mais le fait de devoir faire plusieurs couches. Et donc, le semis était couvert de plusieurs couches de terre, donc on a appelé ça une stratification au foie. Donc, parce qu'on avait mis différentes couches de terreau par dessus, puis on les mettait au foie. Mais finalement, la stratification même, ça n'a aucune importance. C'est le froid. C'est que beaucoup de plantes, mais pas toutes, beaucoup de plantes de climat froid ont besoin de froid pour germer, mais pas pour germer directement, en précurseur de la germination. Donc, calculons la situation. Une vivace quelconque, indigène, puisque les plantes indigènes, pour la plupart, ont cette caractéristique-là. Les graines sont produibilité. Une floraison, les graines s'en portent vite et elles tombent à la fin de l'été ou à l'automne. Ça, c'est tout à fait normal et passe l'hiver au sol. Si les graines se mettent à germer à l'automne, elles sont là d'abord et s'il fait beau, il fait chaud, parce que ça arrive à l'automne, c'est pas bon pour la plante de germer à l'automne. La plupart des plantes, du moins. Il faut que ça germe au printemps. Si ça germe à l'automne, les semis vont tout petits et fragile, quand arrive le froid, ça va les tuer. Donc, les plantes de climat froid, pour une bonne partie, surtout les variétés vivaces des arbres et des arbustes, ont développé une protection. C'est que la plante ne germera pas tant que les graines n'ont pas subi plusieurs semaines de froid. Donc, si on prend le cas d'une pommier, par exemple, c'est un peu sans la vérité. Mais beaucoup de pommiers, les graines ne germeront pas avant 7 à 8 semaines de froid. Il y a comme un horloge d'âge interne dans la graine qui empêche la germination. Et si c'est même si c'est interrompu, supposons qu'il a fait froid pendant un mois, tout d'un coup il fait chaud, le plant ne peut pas germer parce que c'est seulement un mois de fait. Mais le froid revient, ça continue. Donc, ça s'accumule. Donc, ce qu'on va souvent faire avec ces graines-là, c'est soit les semer à l'extérieur, à l'automne, laisser la nature s'occuper de la germination, ou encore, on va les semer à l'intérieur, mais les mettre au froid. Ça donne un meilleur contrôle. Quand on les sème à l'extérieur, en plein air, on perd le contrôle de beaucoup de facteurs. Des insectes, des animaux qui peuvent les manger, des maladies qui peuvent être là, érosion, plein de choses. Alors, quand on les sème à l'intérieur, on élimine le gros de ces choses-là. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, c'est les semer dans une peau de terreau et de mettre ça dans un sac de plastique pour garder une bonne humidité sans perdre trop d'humidité à l'air. Et les mettre au frigo. Pas au congélateur, au frigo. Le frigo, habituellement, c'est 4 degrés Celsius. C'est parfait pour ça. Donc, on les laisse là pendant... Si on ne sait pas, moi, je dirais, laissez là 2 mois et demi à 3 mois. Ça couvre presque toutes les plantes. C'est qu'ils font un minimum de froid. Il n'y a pas de maximum. Donc, supposons que vous avez une semence qui a besoin de 7 semaines de froid et vous en donnez 9, ça ne change rien. 6 semaines, c'est pas assez. 7 semaines, c'est parfait. Mais 9 semaines, c'est parfait aussi. Donc, on peut prolonger, il ne faut pas raccourcir. Donc, au bout de 2 mois et demi à 3 mois, vous sortez les plantes. Là, vous les traitez comme n'importe quel autre semis. On les expose à la lumière, on expose à une certaine chaleur, et d'habitude, ça se met à germer. Ça, c'est une stratification froide. Maintenant, ça, c'est assez typique pour arbres et buste et vivace de climat froid. Rarement nécessaire pour les légumes, les annuelles et quoi d'autre. Certaines vivaces, mais surtout des plantes qui viennent du climat tropical. C'est presque jamais besoin de ça. Par contre, on peut avoir aussi des plantes qui ont besoin de stratification au froid et au chaud. Donc, ces plantes-là, habituellement dans la nature, prennent 2 à 3 ans avant de germer. Donc, si on les laisse à l'extérieur, il faut les laisser là, ils vont germer dans le temps. À l'intérieur, on peut les faire traiter au froid pendant 2-3 mois, les exposer à la chaleur pendant 2-3 mois, les mettre au froid 2-3 mois, les exposer à la chaleur 2-3 mois, exposer au froid 2-3 mois, et l'exposer encore à la chaleur, et vous finissez par avoir une germination. Là, je parle des plantes dites, la graine dite, quelle c'est 30? La graine dite difficile. Hein? Alors, je pense aux trilles, entre autres. T-R-I-L-L-E. Les trilles, c'est réputé 2, 3, 4 ans avant la germination. Mais en alternant traitement au foin, traitement de la chaleur, on arrive à les faire germer. Voilà. C'est ce que je peux vous expliquer sur cette technique.
Donc, on va y aller avec une prochaine question. Martine Gagnon écrit « Est-il exact de dire que le gluten de maïs aura un effet sur la germination de mauvaises herbes? »
Oui, même... c'est une chose qu'on a découvert il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant. Et même pas juste sur les mauvaises herbes, sur tout ce qui germe. C'est un effet d'inhibition contre la germination. Donc, c'est ça qu'on utilise des fois comme traitement pour les pelouses au printemps. On l'applique au moment où le gazon commence à menacer de germer, puis on applique à la grandeur. Donc, ce qui va lever, d'habitude, ce sont des plants. Mais les graines qui sont là, et là, on va présumer que c'est un gazon qui est infesté de mauvaises herbes par semence. Donc, ces plantes-là, les plantes qui poussent par semence, ne pourront pas germer. Et en plus, une fois que l'effet a disparu, ça ne dure pas éternellement quand même, une fois que c'est disparu, ben le gazon est assez haut pour créer de l'ombre et empêcher la germination, et le gluten de maïs va se décomposer et enrichir le sol. Donc, c'est un engrais, mais un engrais qui prévient la germination. Évidemment, vous ne mettrez pas ça dans un jardin où vous avez des choses à semer. Par exemple, gluten de maïs dans un rang de carottes, ça n'a pas de bon sens. Ben, au moins que les carottes soient déjà levées, ça va les empêcher de germer. Donc, c'est un produit qui sert d'herbicide, dans le fond, mais qui est biologique. Et il faut l'utiliser comme il faut, parce que c'est bénéfique et peut être nuisible si on ne fait pas attention.
OK. Donc, on va y aller maintenant avec la question de Diane Cossette. Dans mon arbre févier et mes plates-bandes, j'ai des minuscules insectes volants. Je crois pas que ce soit des pucerons. Comment m'en débarrasser?
Ça, je peux difficilement répondre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Des muscles, des insectes volants peuvent être nuisibles, peuvent être magnifiques. Souvent, c'est un nom d'insecte. Aucun. C'est ni bon ni mauvais. Donc, c'est pas toujours besoin nécessaire de traiter les insectes. Les insectes, d'ailleurs, font vivre les oiseaux, d'autres animaux. C'est important d'avoir des insectes pour le. Ils peuvent, même si on les voit au vol, ces insectes-là peut-être décomposent le terreau ou font d'autres choses qui sont bénéfiques. Donc, dans le fond, moi je dirais, tant que vous ne savez pas que c'est nuisible, je suggère de ne pas traiter. Personnellement, c'est une des règles que je me donne. Si je ne vois pas de dégâts, je ne traite pas contre les insectes. Parce qu'ils peuvent être très bien bénéfiques.
Marie-Josée Landry écrit que quelle plante fait beaucoup de racines? J'ai besoin d'une plante avec un bon système racinaire pour retenir la terre qui déboule derrière mon cabanon. Je ne peux pas mettre d'arbuste parce que la pente est très abrupte, presque un fossé. Qu'est-ce que vous me conseillez? Mi-ombre et zone 5.
OK. Moi, je vais vous suggérer de chercher l'information sur l'Internet. Je n'ai pas, disons, le mémoire de. Pour que je commence une encyclopédie et que je fasse une tri dans ma tête. Et je n'arrive pas à faire ça. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs groupes au Québec qui proposent des plantes pour retenir les berges. Ben, votre situation ressemble beaucoup à une berge. Et on a plein de suggestions là-dessus. Ben, je donne quelques exemples. Plusieurs graminées sont excellents pour ça. Et vous ne dites pas d'arbustes. Vous savez qu'il y a des arbustes qui conviennent bien à ça aussi. Cornouillers, entre autres. Mais moi, je suggère aller chercher le site web sur plantes pour retenir les berges. Vous allez trouver plein d'idées de plantes qui devraient vous convenir.
Marielle La Renarde écrit qu'à l'été, elle a acheté plusieurs équinacées de couleurs roses différentes. Est-ce qu'elles vont conserver leurs particularités à chacune si elles sont proches les unes des autres dans la plate-bande? Ou devrais-je les isoler les unes des autres pour être certaine de conserver la couleur de chaque spécimen? Mille merci pour tous vos bons conseils.
Bon, écoutez, c'est l'équivalent d'avoir mis, je ne sais pas, une collée d'avoir une collée chez vous, une chihuahua. Le collée ne deviendra pas un chihuahua, le chihuahua ne deviendra pas un collée. Deux plantes côte à côte, ça ne change pas. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, si jamais ils se croisent, comme le chihuahua le coulé, la deuxième génération va avoir des traits différents. Donc, vous comprenez? Donc, si vous laissez les plantes se ressemer, là, vous allez sûrement voir des différences. Mais si vous gardez des plantes et vous les laissez empêcher de germer, ou tout simplement, vous enlevez des plantes qui germent, la plante mère ne changera pas. À moins de mutation, c'est toujours possible, mais à moins de mutation, ça ne changera pas.
Denis Hébert, bonjour, je suis à planifier mon jardin pour l'été prochain et j'ai vu sur Internet que l'on pouvait faire pousser des choux, choux-fleurs et brocolis en contenant. J'ai des contenants sacs de culture, entre parenthèses, de 10 gallons. Est-ce que ça peut fonctionner?
Oui, ça peut fonctionner. Il n'y a vraiment pas de problème. On peut cultiver presque n'importe quoi de taille modérée dans un contenant. C'est vraiment pas un problème. La seule chose que je me demande, c'est que, je ne connais pas votre situation complète, mais n'oubliez pas que ça prend du temps avant d'avoir la récolte, surtout avec le chou-fleur et le brocoli. Est-ce que vous êtes-vous vraiment prêt à avoir 2 mois d'entretien et seulement des récoltes à l'automne? C'est pas mal ça que vous allez avoir. Chou, c'est différent. Parce qu'un chou, on peut toujours manger des feuilles de l'extérieur en toute saison. Mais juste, c'est juste une question de pratique. Des fois, c'est plus intéressant quand on fait une culture en contenant, avec un nombre limité de contenants, d'avoir des plantes qui mûrissent rapidement. Comme ça, on a une récolte tout l'été, que d'avoir une récolte qui va se faire à la fin de l'été ou à l'automne.
Martine Laliberté dit qu'elle a eu la surprise de trouver des bulbes rustiques oubliés dans une chambre froide. Ils ont commencé à germer. Est-ce que je dois attendre au printemps ou les mettre maintenant à l'extérieur dans une bonne couche de terre pour les planter?
Moi, je dirais le deuxième choix, si vous êtes capable de le faire. C'est que là, il fait doux aujourd'hui. Juste à Québec, évidemment, où je suis, l'été n'est pas disponible. Et peut-être dans votre région, oui. Et dans ce cas-là, oui, les bulbes rustiques sont toujours mis dehors. À l'intérieur, ça ne donne pas grand-chose. Donc, moi, je les planterai dehors. D'ailleurs, je l'ai déjà fait au mois de janvier. J'ai déjà planté des narcisses vers le 7 janvier parce que j'avais oublié. Je les ai reçus trop tard. Le sol était déjà gelé dur et je n'ai pas pu les planter. Puis tout d'un coup, au mois de janvier, il y a un dégel. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça à Québec, en tout cas. Il y a un dégel. Et je les ai mis dehors. Comme le sol était encore gelé, je les ai couverts avec un gros sac de terreau. Et ça a poussé au printemps, ça a très bien fleuri. Donc, ça pourrait être façon de faire pour vous. Mais il faut que le sol soit dégagé de neige. Voilà.
Lucie Véraud écrit « Bonjour, j'aimerais semer des coréopsis et des cosmos cet été. Dois-je les partir à l'intérieur pour être certaine qu'ils aient le temps de bien pousser ou elles auront suffisamment de temps et les semant à l'extérieur? »
OK. C'est comme oui et oui ou peut-être pas. C'est que cosmos, tous les cosmos que je connais sont disponibles par semence, sont de véritables annuels, parfaitement capables de fleurir sur un semis extérieur. Donc, c'est au début de l'été, ça va fleurir à partir du milieu de l'été jusqu'à l'automne. Donc, pas de problème. On peut les porter dans la maison aussi, mais ça va fonctionner. Pour les coréopsis, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des variétés annuelles qui vont pousser aussi facilement. Vous avez aussi les variétés vivaces. Il se trouve que les coléopsis vivaces peuvent fleurir la première année, ce qui est rare pour une vivace. Mais c'est possible. Mais pour ça, il faut les porter à l'intérieur. Moi, si je suis là, je ne sais pas si c'est les semences que vous avez achetées. Mais regardez, sur l'étiquette, sur le sachet de semences, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous voyez qu'on recommande les semer à l'intérieur, faites-le. Parce qu'un coléopsis, encore, pour moi, c'est embêtant. Il y a plusieurs espèces et je ne peux pas vraiment savoir lequel que vous avez. C'est comme, je ne sais pas. Ça arrive que dans un seul groupe de plantes, il y a plusieurs variétés différentes. Il faut des fois distinguer entre les deux. Voilà.
Mike Sear. Bonjour, M. Hodgson. Je recherche un arbre à croissance très rapide pour intégrer à mon jardin de moyenne dimension. Avez-vous un spécimen à me conseiller?
Vous savez que la plupart des arbres poussent très vite dans leur jeunesse. Après, ça ralentit. Mais dans leur jeunesse, ça pousse rapidement. Il y a des exceptions. Je ne planterai pas une ginkgo, par exemple. Ça, c'est très, très lent. Mais la plupart des autres vont vous convenir. Côté taille de l'arbre, il faudrait voir. Je suggère beaucoup une visite au site web d'Hydro-Québec. Le bon arbre pour la bonne place. C'est excellent pour avoir une idée des dimensions futures des arbres. Mais côté vitesse de croissance, c'est surprenant. Moi, je n'en reviens pas. Ah, d'ailleurs, je ne veux pas embarquer dans une espèce de bataille juridique, mais à la ville de Québec, il y a toute une histoire sur les arbres qui sont coupés pour faire un tramway, blablabla. J'ai regardé ces arbres-là. La plupart sont vers la fin de leur vie. Les arbres poussent si vite Il me semble, des fois, on dit OK, on va planter d'autres, ça aussi. Bon, en tout cas, peu importe. Les arbres poussent très vite. Vous allez être surpris de voir à quelle vitesse ça vous donne satisfaction.
Daniel Bureau. Bonjour, M. Hutchin. Pour des tomates qui ont eu une maladie l'été passé, mildiou ou alterniose, probablement. Est-ce que ce printemps, il faut mettre un produit antifongique ou autre dans la terre avant de faire le potager si on ne peut pas, peut pas planter les tomates ailleurs?
OK. Ben, ça se peut bien que c'était le mildiou. Le mildiou de la tomate, c'est tellement courant. C'est vrai, on n'a pas cette maladie-là. On n'avait pas vu pendant longtemps. Tout d'un coup, ce rucher sorti de nulle part puis cause des dégâts terribles. Donc, cette maladie-là est transportée, passe l'hiver sur... ne passe pas l'hiver dans le sol. Donc, cette maladie-là, il n'y a pas de problème pour repiquer au même endroit. Elle hiverne sur les patates, les pommes de terre. D'ailleurs, c'est pour ça que les agriculteurs essaient d'encourager les gens de ne pas replanter une deuxième année les pommes de terre qu'ils ont récoltées chez eux, parce que souvent, ils sont infestés de mildiou. Et ça cause des problèmes à toutes sortes de cultures. Mais des gens tiennent à le faire. Fait que, on a un petit peu de... Théoriquement, c'est illégal. Hein? D'après le... Si on voit dans les lois du Québec, il est illégal de ressemer des pommes de terre à cause de ce problème-là. Mais les gens le font. Mais cette maladie-là, donc, au moins que vous avez des pommes de terre, vous restez sur place. Là, ce serait grave. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Mais cherchez quand même, tant qu'à faire, des variétés résistantes. C'est rendu... Je viens de le mettre à en tout cas, je fais cette liste de tomates résistantes au mildiou. Et je le mets à jour de temps en temps. Je l'ai fait il y a quelques jours. Je rentre comme une centaine de variétés, je pense, qui sont résistantes. Donc, à quoi ça sert de planter autre chose? C'est vraiment un gaspillage de vent. Donc, vous semez des variétés résistantes et vous... Et comme la maladie n'hiverne pas dans le sol, ça doit vivre sur quelque chose de vivant tout l'hiver. Donc, ça ne peut pas vivre sur le sol. Avec ça, vous devez être correct. Alternariose, ça serait autre chose. Mais pour le mildiou, vous ne devez pas avoir de problème. C'est quand même bon pour d'autres maladies de faire une rotation de culture pour les tomates. Et pour cette maladie-là, spécifiquement, c'est les pommes de terre qui sont le problème, pas le sol. Voilà.
Edith Blouin, bonjour à vous. À l'automne, j'ai rentré un plant de gerbera qui a fleuri de la mi-décembre à la mi-janvier. Maintenant, la plante fait de nouvelles feuilles. À quoi puis-je m'attendre pour la suite? Sera-t-elle bonne pour l'été ou si elle est épuisée?
Oh non, elle va être bonne pour l'été. La plante est... chez nous, on considère le gerbera comme une annuelle. Parce qu'on a un climat où ça ne survit pas. Mais dans la nature, c'est une vivace. D'ailleurs, j'ai écrit un blog sur le gerbera en beaucoup de détails. Je pense qu'on va descendre. Donc, si vous voulez faire référence à ça, vous allez voir. Mais c'est une vivace de courte vie. Mais devrait être bon pour au moins 3 ans. Le problème, hiverner, même à l'intérieur, ce n'est pas facile. Mais vous avez réussi. Donc, la plante va repousser, faire de nouvelles feuilles, et va commencer à fleurir au printemps ou au début de l'été. Et va fleurir jusqu'à l'automne encore. Donc, il s'agit de faire la même chose l'an prochain. Encore une fois, après 3 ans, ce serait peut-être le temps de changer. Mais la plante peut survivre et refleurir. C'est tout à fait normal.
On a maintenant Louise Messier-Luciani. Quel est le meilleur engrais pour accentuer la floraison des échinacées? Actisol?
Écoutez, moi, je n'y crois pas aux engrais qui activent la floraison ou qui stimulent la floraison. La plante, quand on applique un engrais, si la plante n'a pas besoin de ces minéraux-là, elle ne peut pas les utiliser. Donc, tout engrais est seulement utile quand la plante en manque. Donc, si vous n'avez pas de preuve que la plante manque telle chose ou telle chose, on peut aussi bien mettre un engrais tout à fait ordinaire qui contient tous les éléments que l'engrais spécifique. Il n'y a pas longtemps, vous aurez peut-être remarqué, que les marchands faisaient promotion des engrais riches en phosphore, comme étant l'engrais pour la floraison. Mais comment c'est que le phosphore, maintenant, on sait maintenant que le phosphore est très nuisible à l'environnement, c'est pollué nos lacs et nos rivières, là, on n'en met plus de phosphore, et ils ont changé la recette, sans trop dire un mot, et là, ils disent, ben, c'est bon pour la floraison. Ben, écoutez, tout engrais est bon pour la floraison. Il s'agit d'avoir tous les éléments, c'est tout. Donc, mettez l'engrais que vous voulez, mais ça n'a pas besoin d'être une marque ou une autre. Je n'ai rien contre la pisole, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'une autre marque va être bon aussi. Voilà.
Danny Lafont, on a une petite serre depuis peu. J'aimerais savoir à quelle température je peux y mettre mes semis. La serre est en plein soleil, disons 4 à 5 heures par jour au début du printemps. Puis-je les laisser là la nuit, même si la température baisse considérablement?
Bon, évidemment, ça dépend de ce que vous cultivez. C'est sûr qu'il y a un certain jeu à faire là-dedans. Moi, j'ai plusieurs petites serres, différentes façons de les utiliser. Mais si vous cultivez des plantes qui ont besoin de chaleur, tomates, poivrons, courges, concombres, des choses comme ça, il faudrait vraiment attendre que la serre reste d'une bonne chaleur, même la nuit. Il n'y a rien à faire. Ces plantes-là ne trouvent pas de fraîcheur. Même 10 degrés, c'est pas assez pour les tuer, 10. C'est assez pour les ralentir. Et ça ne donne rien de ralentir une plante. Une plante qui ralentit prend du temps avant de recommencer à pousser. Donc, c'est pas intéressant. Par contre, pour beaucoup de plantes, avoir des nuits fraîches, ce n'est pas un problème. C'est ce mode de gel qui est à craindre. Dans ces plantes-là, on peut les mettre dès que la température dépasse toujours zéro la nuit. On pourrait mettre certaines de ces plantes-là. Portez-les dans la maison, par contre. Là, vous avez une bonne chaleur pour les germinations. Toujours une germination au chaud, sans à moins de savoir le contraire. Toujours chaleur pour la germination. Une fois que les plantes ont germé et commencent à pousser fidèlement, là, on pourrait les mettre dans le sein s'il n'y a pas de risque de gel. Et d'autres ont le même gel. Mais moi, je dirais, attendez qu'il n'y ait pas de risque de gel. Vous savez, vous pouvez mettre un thermomètre minimum maximum dans votre serre, avec un contrôle à l'intérieur. Vous allez pouvoir, sans même sortir, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, vous arrivez à un point où ça contient assez de chaleur pour rester chaud la nuit. Et dans ce cas-là, on peut commencer à l'utiliser. Et on peut l'utiliser de toute façon dès l'automne, si vous mettez des semences là qui doivent avoir une hiver froid. Donc, plusieurs façons d'utiliser une petite serre.
Le temps file, mon cher Larry. Je vais avec probablement une dernière question, celle de Steve Gagnon. C'est quand le plus tôt qu'on peut... attendez, ça a bougé. C'est quand le plus tôt qu'on peut planter des radis?
Quand le sol est rendu à 3-4 degrés, on peut les semer. La germination va être lente, mais ça va fonctionner. Quand le sol est rendu à 8, 9, 10, là, la plante va accélérer. Donc, quand exactement? Ça dépend de l'année, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend même de l'humidité du sol. Mais ça vous donne une petite idée. Quand vous êtes rendu 7, 8, 9, vous pouvez le semer. Elle va une belle croissance. À 3, 4, la germination est très, très lente et un peu décourageante. Mais c'est possible aussi.
On a encore le temps, donc. Huguette Fournier écrit « Bonjour, cher monsieur. Allez-vous publier cette année des espèces, plantes, etc., que nous pouvons utiliser et qui supportent mieux la chaleur et l'absence d'eau? Merci de tout cœur. Un bonheur de vous écouter. »
Merci. Ben, je vais essayer de penser à ça. Une plante, des plantes zéro, que j'appelle, zéro fil, des plantes qui tournent à la sécheresse. D'accord, oui, parce que je dois dire, dans ma région, c'est pas tant un problème que ça, mais je sais très bien. C'est important à Montréal, entre autres, où les étés sont de plus en plus chaudes et sont de plus en plus sèches. Donc, on va essayer de faire quelque chose sur les plantes zéro fil. Oui, voilà. Donc, avec ça, de toute façon...
C'est la fin.
C'est la fin. Donc, voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être venu. J'espère que ça finit par passer cette séquoia. Je pense que oui. Donc, oui, c'est parfait. Et on va te retrouver la semaine prochaine, mercredi à 10h. Vous pouvez visiter mon site web, www.jeanlaurent.com. jovenetparosseux.com. Bonjour à DNH, tout le monde, et à la prochaine.
Écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Que faites-vous les dimanches soirs? Faites comme beaucoup de gens qui nous suivent depuis 25 ans et écoutez Profil dès 20h. Découvrez toutes les nouveautés progressives en provenance d'ici et de partout dans le monde. Profil, la référence progressive à Québec. Le dimanche, 20h, à l'antenne de CKIA FM 88.3 Radio Urbaine.
Bonjour, ici Aude Malaret. Le vieux Limoilou, Léré et Mézeray forment un grand Limoilou à la population nombreuse et mixte. Pour mieux en cerner les besoins et arrimer les ressources du territoire, la concertation Rendez-vous Limoilou a pris forme. Rendez-vous Limoilou propose une démarche basée sur l'autodétermination. Des partenaires forment le comité de gestion. Il s'agit entre autres du centre Monseigneur Marcoux, des conseils de quartier et du patro Rocamadour. Votepour.ca ainsi qu'une organisatrice communautaire du CIUS de la capitale nationale en font aussi partie. Espace d'initiative y participe et agit comme fiduciaire pour la concertation. Pour guider partenaires et actions de Rendez-vous Limoilou, une consultation citoyenne est en cours jusqu'à la fin février. Pour répondre au sondage, citoyennes et citoyens sont invités à consulter monlimoilou.com. Le chantier de l'économie sociale est une